aujourd'hui, les gens font encore plus leur coming out qu'il y a, il y a 20 ans derrière. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir plus de légitimité à exister. C'est la même chose pour l'autodéfense. Fuir, c'est une technique d'autodéfense qui est totalement validée. Mais pouvoir frapper si on a envie de frapper, ben, à un moment donné, pourquoi pas? En fait, ce n'est pas le physique qui est la barrière, c'est le mental. C'est le psychologique, tout ce qui a été ancré et enseigné, éduqué depuis tant d'années, qui est le plus dur à surmonter. On y arrive.
Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, bienvenue dans Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Il y a une dizaine d'années, tard dans la nuit, je rentrais chez moi après une soirée passée chez des copines. J'étais un peu ivre, je traversais la ville tranquille, et au détour d'une rue, un groupe d'une dizaine de mecs au loin a commencé à m'insulter en se rapprochant de moi. J'ai eu très peur parce que j'avais entendu dire que contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, la meilleure défense c'est pas l'attaque, la meilleure défense c'est la fuite. Et le 3x500 dans le froid à 3h du mat, je le sentais pas. À mesure que leurs cris devenaient de plus en plus menaçants, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai aboyé. J'ai aboyé très fort dans leur direction pendant quelques minutes. Et ils étaient tellement surpris qu'ils ont arrêté tout de suite. Cette histoire, elle me fait rire parce que c'est la grosse chiennasse qu'ils invoquaient à mon passage qui a pris possession de mon corps ce soir-là et qui m'a défendue contre eux. Bon, en attendant, malheureusement, des histoires d'agression physique qui se terminent mal, c'est partout, tout le temps. Le compte Instagram Le Coin des LGBT recensait d'ailleurs récemment les 3 meurtres et tentatives de meurtre contre des hommes gays qui ont eu lieu en France en l'espace d'une semaine au début du mois de novembre. Je suis une gouine entourée de PD, et les côtoyer, c'est aussi côtoyer des récits beaucoup trop nombreux de sales regards, d'insultes, de crachats et de coups. À chaque fois, ça me retourne le bide, à chaque fois, j'enrage. Notre invitée du jour est formée à divers arts martiaux et elle travaille depuis une dizaine d'années à la transmission et l'apprentissage de l'autodéfense féministe à travers des ateliers. Et elle s'appelle Dal et encadrera un atelier d'autodéfense pour les hommes gays, PD, cis ou trans ce dimanche 24 novembre chez Olympe, à Pantin. Bonjour Dal et bienvenue dans Le Lobby.
Bonjour, merci.
Cet atelier est organisé par Friction Magazine et sur Insta, on peut lire le descriptif suivant. À force d'entendre nos amis nous parler d'agressions qu'ils vivent ou de la peur qu'ils ressentent dans l'espace public, nous, les meufs de Friction, avons souhaité que les hommes gays, cis ou trans puissent aussi s'initier aux gestes et aux outils permettant de gagner en confiance. Et effectivement, depuis quelques années, les cours d'autodéfense féministe en non-mixité se sont multipliés, mais c'est la première fois que j'entends parler d'une initiative en direction des gays et des PD. Est-ce que c'est aussi une première pour toi ?
Alors non, c'est pas une première pour moi, parce que le climat l'exige. Ça fait déjà quelques années que j'ai commencé à partager aussi mes ateliers pour les hommes cis, trans, gays et PD.
Est-ce que tu peux nous raconter comment va se dérouler concrètement le cours ? Est-ce que tu enseignes des techniques spécifiques ?
Alors, l'atelier, bon, il est fait pour prendre confiance en soi et en sa corporalité. Donc, on apprend déjà les gestes de base, comment frapper, comment parer des coups, comment dédramatiser le fait de recevoir des coups. Et ensuite, on travaille aussi sur les mises en situation. Et en fait, chaque atelier se retrouve être unique parce que ça dépend des personnes qui sont pendant l'atelier. Et c'est Yel qui propose des situations. Et en proposant ces situations-là, on essaye de travailler ensemble à voir comment on peut sortir de ça. L'idée étant d'ancrer des façons de se mouvoir, de bouger et comprendre comment un corps bouge pour mieux se défendre.
On nous dit du coup qu'il n'y a pas besoin de tenue particulière. Est-ce qu'on vient comme on est ? Est-ce qu'on peut venir avec ses faux ongles et ses talons ?
Alors totalement, parce que j'ai aussi donné des cours à des drag queens au tango, grâce à une drag queen dont le prénom de base PD est Youssef. Et donc du coup, on vient comme on est. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la rue, en fait, on sort pas forcément du sport, donc on n'est pas forcément en jogging basket. Donc il faut savoir se défendre en ayant sa tenue de tous les jours. Donc si on a l'habitude de porter des talons, il faut savoir se défendre en talons.
Trop bien. J'ai sondé un peu mon entourage et mes amis PD étaient tous hyper enthousiastes vis-à-vis de l'existence de l'atelier. Mais certains m'ont dit c'est pas pour moi, pour plein de raisons, parce qu'ils n'avaient pas assez confiance dans leur corps, parce qu'ils n'étaient pas assez sportifs ou parce qu'ils étaient un peu rebutés par l'idée d'utiliser la violence. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes ?
Alors là, il y a plusieurs éléments qui se posent. Alors, considérer que c'est de la violence que de se défendre, moi, je ne suis pas de cet avis. La réponse à la violence n'est pas de la violence. Il s'agit de sauver sa vie face à quelqu'un qui nous agresse. On n'a pas demandé à être agressé. Donc, du coup, on a le droit de répondre comme on veut. Moi, je donne juste les outils pour que les personnes répondent comme elles ont envie de répondre, que ce soit une agression verbale ou une agression physique. Ensuite, tu as évoqué la... C'était quoi le premier point?
Est-ce qu'ils n'étaient pas forcément assez sportifs ou qu'ils n'avaient pas assez confiance dans leur corps?
Alors, justement, l'idée, c'est de prendre confiance. C'est de connaître son corps. On ne le connaît pas forcément, on n'a pas l'habitude de l'utiliser comme ça ou pour se défendre. Donc, du coup, forcément, c'est un apprentissage qui fait que l'atelier est là pour ça, en fait. C'est fait pour ça. Ensuite, se dire qu'on n'a pas les capacités corporelles, en fait, ça aussi, c'est faux. C'est pas une question de force, c'est pas une question d'entraînement, etc. C'est juste dans la formule, moi, la façon dont j'enseigne, c'est plus du placement et de la technique qui vont justement pallier à une différence de force entre l'agresseur et la personne qui se fait agresser. Donc tout ce travail-là, il se fait pendant l'atelier. Donc il ne faut pas se mettre des barrières en amont. J'ai enseigné également, par exemple, à une personne qui était quasi aveugle. Donc vraiment, elle ne voyait que des ombres. Et ça n'a pas empêché. J'ai adapté les techniques pour qu'elle puisse mieux travailler. Mais tout est à peu près faisable.
Donc toutes ces craintes, finalement, il faut venir au premier atelier pour les voir.
Il faut venir avec ses craintes pour laisser ses craintes dans l'atelier. Repartir plus léger.
Trop bien. La super association Glitch, je ne sais pas si tu connais, propose aussi un atelier d'autodéfense en décembre pour les personnes PD gays. Cela nous ramène à penser les spécificités des violences qui sont exercées contre les garçons PD, l'homophobie, la folophobie. Pourquoi est-ce que la non-mixité, elle est importante dans ce cadre et pourquoi est-ce que toi, de temps en temps, tu mènes des ateliers en non-mixité?
Alors, la non-mixité, elle est importante parce que Il y a plusieurs règles. En gros, il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise en présence de mecs. Des femmes cis qui ne se sentent pas à l'aise en présence de personnes trans. Ça, je ne vais pas le prendre en considération. C'est pourquoi, moi, par exemple, je donne des cours pour femmes et personnes trans. Les femmes cis qui ne sont pas à l'aise avec les personnes trans, si elles ne veulent pas venir à cet atelier, tant pis pour elles. Parce que du coup, ça voudrait dire que je les dérange aussi, moi, en tant que personne trans.
Bien sûr.
Pour les mecs cis ou trans, ce qui va se passer, c'est que les mecs trans, si je les autorise en gros, en quelque sorte, à venir à l'atelier pour les mecs cis, PD, c'est tout simplement parce que potentiellement, eux se sentent plus à l'aise de se retrouver qu'avec des mecs, qu'entre mecs. Par contre, d'un point de vue purement technique, les agressions ne se sont pas commises de la même manière sur une personne qui est visibilisée femme que sur une personne qui est visibilisée mec. Si c'est une question d'homophobie, tout comme le pire, on le sait, c'est les femmes trans. Les agressions n'étant pas commises de la même manière, on ne peut pas apprendre à y répondre de la même manière. On ne peut pas se préparer de la même manière, sinon ça n'aurait pas de sens.
Le lobby... Tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Après que j'ai fait un petit cours d'autodéfense avec Pecha, un client m'a strangulé. Et je, avec la technique que j'ai appris avec Pecha, je me suis défendu. Merci à Pecha parce qu'il m'a donné un petit truc pour je me défendre.
Casser un genou, c'est pas si compliqué, finalement, techniquement. Mais se sentir légitime à le faire, c'est beaucoup plus dur.
On vient d'entendre l'extrait d'un reportage de Combini sur un cours d'autodéfense du SWAG qui est réservé aux travailleuses du sexe. J'ai l'impression que l'autodéfense, ça se joue à la fois dans le corps, mais surtout dans la tête, dans le verbal, l'émotionnel. Il y a tout un apprentissage peut-être ou un désapprentissage d'un sentiment de légitimité à se défendre, comme elle dit. Comment est-ce que tu travailles cette partie, toi, dans les cours?
Je ne vais pas divulguer tous mes secrets non plus. Mais on travaille effectivement la légitimité, tout simplement par le fait déjà de... Quand on s'autorise à porter des coups dans un atelier, on aura plus de facilité à le porter dehors. Et aussi de rassurer sur quelles peuvent être les conséquences des coups qu'on porte. Parce que souvent, il y a des préjugés comme quoi, je sais pas, un coup de poing dans la gorge, ça tuerait quelqu'un. Beaucoup de personnes qui pensent ça et qui du coup se disent jamais je taperai là ou jamais je mettrai mes pouces dans les yeux parce que je vais rendre aveugle la personne. Non, c'est faux aussi. Tout comme le préjugé de penser qu'en se prenant une droite, on tombe KO comme dans les films. Non, c'est faux aussi. Effectivement, c'est une question de confiance et de légitimité. S'autoriser à le faire, c'est plus dur. Après, le geste en soi, effectivement, il est accessible. Il n'y a pas de... À partir du moment où on montre comment on fait, que vous le répétez, que vous l'essayez, après, c'est facile. C'est à la portée de tout le monde.
Ouais, c'est l'idée que de se dire que finalement, il y a des gens qui nous disent « vous n'êtes pas légitime à exister » et du coup, on ne serait pas légitime à se défendre. Alors qu'en fait, il faut désapprendre tout ça pour se dire « en fait, si, je... »
Oui, mais c'est tout comme on peut faire un parallèle avec le fait qu'aujourd'hui, les gens font... encore plus leur coming out qu'il y a 20 ans derrière. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir plus de légitimité à exister. Et c'est vrai que quand même, il y a eu des petites évolutions législatives et tout ça qui nous permettent de sentir plus légitime à exister. Mais c'est la même chose pour l'autodéfense. De se dire que fuir, c'est une technique d'autodéfense qui est totalement validée. Mais pouvoir frapper si on en a envie de frapper, à un moment donné, pourquoi pas ? Et l'intention des coups, c'est ça qui va faire que notre coup sera puissant. Et pas... si on a peur de le porter, on fera pas mal.
Tu dirais que c'est le plus gros travail, toi, dans le fait que quand tu te déplaces un peu partout pour rencontrer des personnes, c'est le plus gros travail de travailler sur l'intention de donner des coups plutôt que sur réellement, physiquement, ce que ça engage dans le corps ?
Totalement. Totalement. En fait, c'est pas le physique qui est la barrière. C'est le mental, c'est le psychologique, tout ce qui a été ancré et enseigné, éduqué depuis tant d'années, qui est le plus dur à surmonter. C'est le plus gros travail, mais on y arrive.
Pas à pas, petit à petit. Et quand on fait des recherches sur l'autodéfense féministe sur Internet, les premiers résultats qui apparaissent me semblent bien loin des formats que tu proposes, entre des slogans choc qui promettent une solution de développement personnel ou encore des événements de team building pour renforcer la confiance des collaboratrices et leur volonté de se dépasser, parce que c'est quand même ça le but à la fin, c'est de la productivité, du marketing. L'autodéfense, j'ai l'impression qu'elle a été récupérée, enfin elle a été davantage connue peut-être ces dernières dizaines d'années, mais elle a été aussi récupérée par le système capitaliste, patriarcal, et finalement devenue un business comme les autres. Comment est-ce que tu réagis à ça? Et est-ce que pour toi l'autodéfense c'est militant, contrairement à ces prises de position? Ça fait 10 ans, toi, je crois, que tu donnes les cours à peu près. Est-ce que tu as vu ton univers professionnel changer avec l'arrivée de ces nouvelles...
Oui, j'ai vu mon univers pro changer de ce point de vue-là, même si c'est en parallèle d'une autre profession que j'exerce. Alors, c'est assez... j'ai un peu envie de rigoler, en vrai, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'autres ateliers et qui viennent dans le mien et qui me disent « Ah, nous, c'était un policier qui nous avait donné le cours. Et c'était un mec cis, hétéro. » Et qui nous disait « Ouais, fais comme ci, fais comme ça. » Et quand je voyais les techniques, j'étais là « Mais en fait, je suis désolé, à un moment donné, il faut un minimum d'expérience de vie même, en tant que potentielle victime dans l'espace public, ou avoir expérimenté même limite des agressions pour pouvoir savoir comment on peut y répondre ou non. Parce que c'est juste en sachant comment les agresseurs agressent qu'on peut savoir comment on peut y répondre. Sinon, en fait, on travaille dans le vent. On sait pas face à quoi on se bat. Comment adapter ces techniques? Moi, je comprends pas. Toute l'histoire là de développement personnel, je vais pas citer Medine en entier, mais le prochain qui me parle de développement personnel, je le monte en l'air, j'en fais une affaire personnelle. Voilà, moi, ce que j'en pense de développement personnel, c'est du caca. Je suis assez énervé par contre contre la mairie. ou autre institution qui organise des ateliers d'autodéfense féminine qui sont vraiment totalement sexistes et qui limitent les discours tenus par les entraîneurs, les formateurs, sont des discours en disant « Non, mais il faut que vous appeliez au secours parce que toute seule, vous ne pouvez pas vous en sortir, etc. » C'est en fait des discours qui détruisent encore plus le peu de confiance que pouvaient avoir mis ces meufs en elles. C'est, en fait, pour moi, c'est de la merde.
Ouais, pardon. Ça remet un
J'ai rien de plus à dire que c'est de la merde. Donc, non, moi, je suis content de voir qu'en fait, il y a plein d'autres ateliers qui existent, qui sont militants, parce que oui, l'autodéfense féministe, c'est quelque chose de militant. C'est né d'en bas, c'est né des groupes militants. Et moi, c'est ça qui m'a amené à enseigner et à construire cette méthode, puisque j'ai ma propre méthode, du coup. C'est pas autre chose, en fait.
Bien sûr, et puis cette idée, ben, voilà, j'ai beaucoup vu dans ces propositions-là qu'effectivement c'était des anciens gendarmes, des anciens policiers, des anciennes personnes, des anciens mecs qui travaillaient dans l'armée, enfin, qui étaient des retraités de ces institutions-là, mmh. policières, etc. Et on se dit, c'est quand même peut-être que la non-mixité qu'il y a dans certains des ateliers, finalement, elle est aussi quelque part dans la personne qui donne les cours. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ça se... Enfin, que ce ne soit pas un homme cis qui les donne, un homme cis-sept qui les donne, c'est quand même peut-être un bon départ.
C'est ça. Déjà, il n'est pas concerné. Deuxio, il ne sait pas de quoi on parle. Et par ailleurs, dans ces ateliers, du coup, les personnes trans, elles vont où? Parce que les femmes trans, elles ne sont pas accueillies dans ces ateliers.
Bien sûr.
Et il y a aussi le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est le prix. Donc, l'accessibilité. Pour toutes les personnes, je sais pas moi, les petites étudiantes ou les petits étudiants queer qui n'ont pas d'argent, etc. Mais il faut comment? Déjà, ils n'arrivent même pas à remplir leur frigo. De quoi ils vont choisir entre remplir leur frigo et apprendre à se défendre? Je trouve que c'est un choix qui ne se pose pas, en fait, qui ne devrait pas se poser.
Dans le descriptif de l'atelier, on peut lire que l'atelier est un lieu pour échanger ou revenir sur des expériences vécues. Comment est-ce que tu accueilles les récits des personnes qui viennent à tes ateliers, qui peuvent être, j'imagine, parfois traumatiques?
Disons que mon travail d'infirmier à côté fait que j'ai l'habitude d'accueillir des propos qui peuvent être durs à entendre. Oui, je les accueille avec empathie. Je ne suis pas là pour remplacer un psy, par contre. Ça, c'est sûr. Les gens le savent et je le dis. Quand parfois, il y a des personnes qui sollicitent beaucoup plus après l'atelier, par message. Ça ne me dérange pas de les réorienter après. Mais en fait, l'idée de partager ces expériences, c'est pour qu'en fait, dans l'espace de l'atelier, les personnes se comprennent entre elles et se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas seules à vivre ces choses-là. Et parfois, ça leur donne même plus de force que ce qu'on peut penser. Elles n'ont pas l'impression qu'elles vont pleurer ensemble. Ce n'est pas un groupe de parole non plus, mais elles sont là pour justement se donner de la force en se disant « Hé, regarde, moi, j'ai survécu à ça. » Donc toi aussi, même si pour le moment, tu ne t'es pas encore fait agresser, mais que tu as peur de ça, eh ben, tu survivras aussi. Et en fait, se transmettre cette force-là ensemble.
C'est l'idée de se rassembler entre personnes qui ont vécu ou pourraient vivre la même chose. Et juste ça, c'est hyper puissant, quoi. Juste de voir des corps qui se rassemblent et qui se disent ça, c'est déjà immense. Et justement, je me demandais, donc tu dis, donc je pose un cadre sur ce point-là en début d'atelier. Et après, si jamais les personnes continuent à me solliciter, je peux les réorienter. Est-ce que ça, du coup, t'as une liste de soignants, peut-être safe ou de thérapeutes ou de lieux qui peuvent accueillir ces paroles ou ces corps qui peuvent être abîmés? Enfin, tu rediriges les personnes vers d'autres professionnels de soins, quoi, de santé.
En règle générale, en fonction des situations, soit c'est quelque chose d'assez simple et j'y réponds moi-même, soit je considère que la personne elle a besoin d'un accompagnement psy ou autre. Et là, je vais l'orienter vers soit des psys que je connais de nom, où je sais que ça va aller... D'un point de vue, j'aime pas trop dire safe, puisqu'en fait rien n'est safe. Mais voilà, ça devrait aller en vrai. Et après, oui, sinon, parfois, il y a aussi d'autres besoins plus spécifiques. Et là, pareil, je vais faire du mieux possible en fonction de ce que j'ai. Mais voilà, si c'est des personnes trans, parfois, ben, EST, c'est espace santé trans, c'est très bien. Accept ST pour certaines autres situations, etc. Il y a même outrance. Pour des femmes cis, ben, il y a la maison des femmes de Montreuil, que je privilégie à celle de Paris pour des raisons de putophobie et de transphobie qu'il y a pu avoir par le passé dans la maison des femmes de Paris. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut transmettre et qui font que les personnes vont relayer, prendre la suite sur l'atelier.
On poursuit le travail. Mmh. Et justement, toi, tu donnes, j'ai vu que tu donnais pas mal de cours comme des initiations. Est-ce qu'on peut aussi suivre des cours sur plusieurs séances? Est-ce que ça peut être des cours suivis ou c'est plutôt tu privilégies des formats one shot où c'est une seule fois on se rencontre et au bout des 3 heures, 4 heures, on se dit au revoir?
Je privilégie les formats one shot, du coup en 3 heures. Mais en fait, le format one shot, il y a toute la première partie qui est toujours la même. Mais la deuxième partie avec les mises en situation, elle évolue puisqu'elle dépend des gens qui sont là. Et en fait, la première partie, on peut toujours venir une deuxième fois, une troisième fois pour la réviser. J'ai des personnes qui font ça, qui reviennent 4 fois, 5 fois même à mes ateliers, qui révisent donc du coup pendant la première partie, ce qui leur permet de se renforcer, renforcer leur confiance sur les gestes, etc. Et sur la deuxième partie, elles disent « Ah, c'est cool, ça, on ne l'avait pas vu à l'atelier précédent, etc. » Et donc, qui voient de nouvelles choses. Et ça, c'est plutôt intéressant. Après, pourquoi je n'ai pas fait quelque chose de plus régulier, c'est tout simplement parce que mon travail à côté ne me permet pas trop d'avoir une régularité très longue et parce que la gestion, et même financièrement, pour avoir une salle, etc., c'est hyper compliqué. Donc, je le fais pas encore. Et je sais pas, je pense aussi que j'ai envie de former un maximum de personnes. Et si je fais quelque chose de régulier, ça va privilégier 20 personnes sur une année. Et puis après, le reste sera sur le bas-côté. J'ai pas trop envie.
Et justement, on peut encore venir demain, on peut encore se présenter chez Olympe à Pantin complètement.
Chez Olympe, exactement. Il ne faut pas hésiter à envoyer un mail pour s'inscrire donc, à Friction Magazine, que je remercie encore pour m'offrir la possibilité de refaire un atelier. Et sinon, si vraiment c'est une décision de dernière minute, parce que vous avez trop d'hésitations en tête, n'hésitez pas à venir en fait directement.
Est-ce que tu as déjà des dates, des prochaines dates qui sont prévues à venir? Est-ce que tu sais?
Alors, pour les prochains ateliers, donc du coup, le samedi 30 novembre, atelier pour les meufs et les personnes trans aux Amar, donc dans le 13e. Faut pas hésiter à envoyer un mail pour s'inscrire. Ça figure de toute façon sur mon Instagram. Et également le 7 décembre de 16h à 19h avec SOS Homophobie. Et là, c'est pas très loin de la gare de Lyon.
Trop voilà. Bien, génial. On merci postera. Beaucoup. Merci beaucoup, Dal. Ton atelier d'autodéfense pour les PD, c'est demain chez Olympe à Pantin avec Friction. Toutes les informations sont dans la description du podcast et sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. Et on se quitte avec une jeune rappeuse franco-chinoise qui chante en mandarin et en français et dont le nouvel album paraîtra bientôt. On écoute Cheng avec son single Kit Kat qui nous raconte un drama queen sur des sonorités hyper pop. Qu'est-ce que tu m'en, 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 qu'est- Cet épisode a été présenté par Lucie et réalisé par Colin. Tous nos épisodes sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, suivez-nous sur Insta et n'hésitez pas à mettre des étoiles. À la semaine prochaine. Bisous.
Les pansements, c'est plus la peine. Sur mon corps, je fais des trous. Certains soirs, elle me rappelle. Je me cache au creux de son cou. Je dessine des cœurs arc-en-ciel. Je repense au premier rendez-vous. Tu me parlais beaucoup de tes heures. Je les imagine la corde. Et même si t'es typa, je rêve de ta plastique. Je mets toujours de couverts. Je prépare un deuxième bol de Nesquik. Tu m'as encore bloqué quand je t'ai reproposé en Netflix. C'est quand tu sens mon crâne que tu suis enfin peine au exit. Je mets des big eyes, big sap. Pas là pour des chichas. Je me fais jolie pour madame. Je fais de la muscu. Je veux un six-pack. Big eyes, ASAP. La gosse est